With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. La question des conflits entre générations, c'est un vieux classique du débat public. Rien n'est plus évident que de constater les incompréhensions et les oppositions qui émergent dès lors que des visages plus jeunes arrivent aux commandes et se mettent en position de demander des comptes à ceux qui les ont précédés. Ces derniers se défendent souvent en reprochant à leurs successeurs leur inexpérience, leur manque de réflexion ou leur naïveté. Il suffit pour s'en convaincre de regarder un peu de quelle façon se crispent les affrontements autour de l'urgence climatique, par exemple. Symbole de ce conflit sans cesse renouvelé, l'expression « ok boomer » censée servir d'arguments massus face aux aînés un peu trop prompts à donner des leçons aux plus jeunes. Mais finalement, d'où nous vient l'idée que la génération à laquelle on est censé appartenir détermine la vision qu'on a du monde ? Sur quelle base cette organisation théorique de la société s'est-elle construite ? Et puis que faire des grands oubliés du conflit très médiatique entre les baby-boomers et les millennials, à savoir la génération du milieu, la fameuse génération X ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Mr. Speaker, how many world leaders for how many decades have seen and known what is coming, but have decided that it is more politically expedient to keep it behind closed doors. My generation and the generations after me do not have that luxury. In the year 2050, I will be 56 years old. Yet, right now, the average age of this 52nd Parliament is 49 years old. Okay, Boomer.
Notre invité, pour tenter d'y voir plus clair, c'est Gérard Mauger. Il est sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Il a beaucoup travaillé sur ces thématiques, notamment en traduisant les travaux d'un des pionniers sur le sujet, le sociologue allemand Karl Mannheim. J'ai commencé en lui posant une question toute simple. C'est quoi une génération ?
Il y a deux sens, finalement. Il est un peu intéressant de les rapprocher, la notion de génération qu'il faut d'abord distinguer. Il y a la notion de génération familiale, ça on comprend très facilement ce que c'est. Il y a les parents, puis les enfants, puis les petits-enfants, etc. Ça fait des générations successives qui appartiennent donc à une même famille et qui sont engendrées au sens biologique et social du mot par la génération qui les précède. D'accord ? Donc c'est la génération familiale. On voit bien, donc, avec la question des rapports entre ces générations familiales qui peuvent être de transmission, de reproduction, etc., d'héritage, tout ça, qui sont d'ailleurs tout ça à la fois, mais qui peuvent être aussi parfois d'opposition, etc., dans certaines circonstances. Bon. Voilà, génération familiale. Génération sociale, alors c'est une extension, finalement, de cette idée de génération familiale. Est-ce qu'on peut étendre à l'ensemble d'une société donnée, la notion de génération, et considérer que tous ceux qui ont à peu près le même âge auraient quelque chose en commun qui les distinguerait de ceux qui les précèdent, de ceux qui les suivent, et qui ferait qu'ils auraient effectivement quelque chose en commun. Qu'est-ce qu'ils pourraient bien avoir en commun, à part le fait d'être à peu près nés au même moment quoi. Il me semble qu'il y a deux axes pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut bien être, si tant est que ça veut dire quelque chose, une génération sociale. Il y a peut-être le plus simple, le schème d'interprétation le plus simple, c'est celui de l'événement fondateur. C'est-à-dire que ce qu'aurait en commun une génération sociale, ça serait le fait d'avoir vécu à peu près au même âge un événement qui les marquerait suffisamment pour les rapprocher et les distinguer de ceux qui les précèdent et de ceux qui les suivent. On peut donner un exemple qui, à mon avis, valide ce type d'idée, en tout cas, qui lui donne une certaine consistance, c'est la guerre de 14, par exemple. La guerre de 14-18. Quand vous avez passé, vous voyez, tous les jeunes hommes, tous à peu près, qui ont le même âge, se retrouvent dans les tranchées pendant 4 ans, on peut imaginer que ça marque. Que ça marque de tas de façons, psychologiquement, socialement, corporellement aussi. Bon, voilà, hein. Que ça laisse des traces, quoi. Donc ça laisse des traces, et que tous ceux auxquels on dit qu'ils appartiennent à la génération de 14 voient de quoi il s'agit, quoi. Ils ont vécu quelque chose de très particulier, de très marquant, qui les distingue de ceux qui ne l'ont pas vécu, trop vieux, les parents, et des plus jeunes qui ont échappé à ça, quoi. Bon. Donc vous voyez, on voit que dans certaines circonstances, effectivement, un événement, vous voyez, d'avoir vécu à propos même âge, un même événement, peut avoir des effets, des impacts qui permettent de distinguer ce qu'on appelle une génération. La question est ensuite celle de l'extension de cette notion d'événement. Est-ce que n'importe quel événement, ça peut faire l'affaire ? Bon, vous voyez, par exemple, on parle volontiers, on l'a fait les journalistes en tout cas, de génération de mai 68. Bon, moi je veux bien, mais c'est déjà plus compliqué, vous voyez, parce que d'abord, mai juin 68, c'est un événement marquant, certes, d'importance, etc., mais il n'a pas été vécu seulement par ceux qui avaient le même âge, et je suis pas sûr que tous ceux qui avaient pas le même âge en mai juin 68 aient été marqués de la même façon par ce type-là d'événement, vous voyez, où c'est déjà beaucoup plus problématique.
Vous étiez, madame, en mai 68?
Ah ben, bien sûr. Nous, on est de la génération 68. Ah ben, oui. Moi, c'est ma deuxième date de naissance, c'est 13 mai 68.
Vous êtes la génération mai 68, tous?
Absolument. On s'est battu en mai 68, 68, je peux vous le dire.
On a viré un vieux.
Voilà.
Vous voyez, maintenant, c'est peut-être les vieux qui voudraient virer un jeune.
Voilà.
Parce qu'on en a marre.
J'en viens au deuxième schème possible, qui est plus compliqué, celui-là, mais peut-être plus sérieux, d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est, on peut considérer, en tout cas, oui, envisager le fait que une génération sociale distincte des précédentes apparaisse quand elle a été socialement engendrée sur un mode qui est en rupture avec la façon dont les générations précédentes ont été engendrées. Ce qui veut dire qu'il faudrait supposer, vous voyez, que si on admet que chacun est engendré familialement, scolairement, et par le marché du travail au moins, il faudrait supposer que ce mode de génération, vous voyez, ait subi une rupture telle qu'ils soient vraiment très différents, vous voyez, de ceux qui les précèdent, parce qu'ils n'ont pas été fabriqués de la même façon. Ça suppose alors de mettre en évidence, vous voyez, des changements assez radicaux dans les structures familiales, les structures scolaires, les structures du marché du travail. Là aussi, vous voyez, c'est compliqué. Oui. Je ne veux pas dire que rien ne change, les choses changent, c'est vrai, rarement brutalement. C'est peut-être plus vrai pour le marché scolaire, pour le système scolaire. Le fait est qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui ressemble à une rupture, en tout cas, au début des années 80, avec, vous voyez, 80% d'une génération au baccalauréat, la démocratisation scolaire, comme on dit, mais il faudrait dire, à mon avis, la massification scolaire, c'est-à-dire que de plus en plus de monde va à l'école de plus en plus longtemps. D'accord ? Et le poids du diplôme par rapport à la carrière sociale, la trajectoire biographique ultérieure, pèse sans doute de plus en plus lourd par rapport à un avant. Pour le marché du travail aussi. Vous parliez de l'après-guerre, les dites 30 glorieuses, bon, enfin, j'aime pas trop cette appellation, mais enfin bon, on peut dire que ces années sont caractérisées sur le côté du marché du travail par le plein emploi, grosso modo. Bon. Là aussi, il y a un tournant, pas en deux jours, mais enfin à partir de la deuxième moitié des années 70, et là encore les années 80, le début des années 80, bon, voilà, il y a le chômage de masse qui se fait jour, qui n'a pas cessé. Donc on pourrait se demander si, au fond, vous voyez, au tournant des années 80, à travers ce changement à la fois du système scolaire et du marché du travail, il n'y a pas des générations différentes, parce que, voilà, produites dans un état du système scolaire et dans un état du marché du travail qui a profondément changé. Voilà. C'est pas faux. Mais là encore, il faut spécifier, parce que les effets de ce changement du système scolaire, du marché du travail, ne sont pas les mêmes pour tout le monde, ou pas les mêmes pour tous ceux qui ont le même âge. Les inégalités internes à une génération sont doute beaucoup plus grandes que les inégalités d'une génération à une autre. Vous voyez, ce qui fait que, bon, on peut s'interroger sur la consistance, vous voyez, de cette notion de génération dès lors qu'on est confronté à des choses comme ça. Donc ça amène, ça, cette considération, je crois, à restreindre, en fait, l'usage de la notion de génération, non pas, tout en gardant l'idée de génération sociale, en la restreindre non pas à l'échelle de toute une société, parce que c'est sans doute trop grand, vous voyez, mais à l'échelle d'une classe sociale, par exemple. On va dire, par exemple, je crois que c'est pas idiot que de dire que, à partir des années 80, les ouvriers ne sont plus ce qu'ils étaient. Voilà, je crois que c'est vrai, ça. On peut le faire à l'échelle d'une classe sociale, on peut le faire aussi à l'échelle de ce que Bourdieu appelait un champ, et on l'a fait très souvent. Là, par exemple, on peut distinguer des générations sociales, mais non pas là encore à l'échelle de la société, mais à une échelle beaucoup plus restreinte, qui est celle d'un univers. Vous voyez, par exemple, dans le champ littéraire, on l'a fait ça très souvent, dans le champ littéraire, on distingue des générations. Pourquoi ? Bon, on peut le comprendre là aussi, parce qu'ils ont été produits, justement, sur un mode. Ils ont été produits comme écrivains, ou comme peintres, les impressionnistes, voilà, sur un mode tel qu'ils sont, justement, porteurs de quelque chose de différent, d'une manière d'être et de faire différente de ceux qui les précèdent. Je crois qu'avoir dit, je veux résumer, en tout cas, hein, l'essentiel de ce qu'on peut appeler une génération de façon à ce que ça ait un sens. Quoi. Ce qui veut dire que ça n'en a pas toujours.
Qu'est-ce qui fait que, alors même que, justement, vous le disiez, ce terme de génération devrait être utilisé avec parcimonie et sur des cadres assez spécifiques. Qu'est-ce qui fait qu'on l'utilise de manière extrêmement globale, pour le coup, et qu'on a tendance à voir dans des grosses tranches en disant, alors les gens qui sont nés de temps à temps, c'est telle génération. Qu'est-ce qui fait que cette conception, cette vision de la société perdure, si elle n'est pas scientifiquement très estimable?
Bah, écoutez, j'aurais deux réponses à ça. Il y en a une qui est le fait que c'est une vision de sens commun que les gens tendent à partager, quoi, facilement, parce que c'est facile à comprendre, à cause des générations familiales. C'est une autre réponse, qui est que décrire l'espace social en termes de génération et de conflit de génération, c'est pas le décrire autrement. Vous voyez, c'est aussi, ne pas le décrire en termes de classe sociale, ce qui, à mon avis, serait quand même plus pertinent, ce sera plus de consistance sociologique qui de longue durée, vous voyez. Mais bon, chacun sait que cette vision du monde divisée en classes, on peut pas dire que ce soit politiquement très à la mode, quoi. Enfin, en tout cas, ça signifie politiquement quelque chose. C'est pas politiquement neutre, mais il y a aucune définition du monde social, qui soit neutre, ça veut rien dire. Il y a toujours un point de vue sur le monde social. Or, ce point de vue-là, vous voyez, la division en classes qui est attestée de mille façons, sur la longue durée, bon, ça a une portée politique. Donc, on peut dire que, vous voyez, décrire le monde autrement, c'est bien commode, quoi. C'est bien commode, ça évite de parler d'autre chose, quoi, vous voyez.
Et depuis quand théorise-t-on, justement, les oppositions de génération? Est-ce que ça coïncide avec la théorisation même du concept de génération? Dès le début, on a théorisé le fait que ces générations sont vouées à s'opposer.
Oui. Il y a plusieurs éléments qui convergent, hein, dans le monde des idées pour produire ces idées de conflit entre générations. Il y a Freud, bien sûr, aussi. Il y a Oedipe. Bon, voilà, une espèce de, vous voyez, de vision qui légitime ça, dans le cadre des générations familiales. Mais là aussi, on peut l'étendre facilement. La tentation est vive, évidemment, de généraliser ce type-là de représentation à, non pas l'espace familial, l'étendre à l'ensemble de l'espace social. Oui, à dire, voilà, il y a nécessairement des conflits de génération. Ce qui, là encore, n'est pas forcément idiot, mais efface ou gomme un aspect tout à fait essentiel, qui est exact inverse du conflit de génération, en tout cas dans la famille, c'est la transmission, l'héritage. Ouais. L'héritage économique, ça pèse. Et puis l'héritage culturel, c'est ce que Bourdieu et Passeron ont montré bien après, ça pèse aussi très très fort sur le devenir scolaire, donc social, des enfants. Surtout, ça permet aussi d'éviter de voir un autre aspect qui est tout à fait central, essentiel pour comprendre le fonctionnement de nos sociétés, qui est la reproduction. Justement, l'inverse du conflit, c'est la reproduction.
Dans ce conflit de génération qu'on a évoqué, on oppose souvent deux on va dire, organisations d'âge, à la fois, donc les baby-boomers contre les millennials. C'est la grande guéguerre qu'en tout cas médiatiquement, on met beaucoup en scène ces derniers temps. Au milieu de tout ça, il y a une autre génération, celle qu'on appelait la génération X. Est-ce qu'elle existe concrètement, cette génération?
Moi, je crois pas. En tout cas, défini comme ça, quoi. Je crois pas que ça veut dire grand chose, quoi. En tout cas, j'ai jamais lu ou que ce soit une définition que je trouve, oui, que soit consistante un peu à mes yeux. Hein. Qu'est-ce qu'ils auraient de particulier? Franchement, bon, vous voyez, au-delà d'être confronté à une guerre scolaire de plus en plus intense, que le marché du travail, ça va pas être de la tarte, donc ça renforce très fortement la guerre scolaire, etc. Donc c'est des gens qui sont confrontés, voilà, à ces deux, au moins à ces deux aspects-là, des conditions dont on peut dire qu'elles sont moins favorables que celles qu'ont connues ceux qui les précèdent. Bon, si c'est ça, génération X, moi je veux bien, quoi. Bon, on peut dire, voilà, bon, ce serait mieux de regarder de plus près, à mon avis, mais bon, pourquoi pas, quoi, hein, pourquoi pas. Voilà.
Pour rester sur cette idée de génération X, comme on l'appelle, on a aussi utiliser parfois le terme de génération de la crise. Est-ce que c'est la même chose ?
Oui, je dirais oui. Si cet texte a un sens, à mon avis, oui, c'est ce qu'on appelle la crise. Alors, j'aime pas trop la crise, parce que le problème, c'est qu'une crise qui dure 40 ans, vous voyez, c'est pas une crise, quoi, quand même. C'est, enfin, vous voyez, ou en tout cas, c'est donné la crise un sens très particulier, quoi. C'est un état stationnaire, quoi. Vous voyez, c'est... Donc oui, je crois que, bon, si on dit ça, je trouve que c'est mieux, quoi. C'est-à-dire un changement, vous voyez, un changement à la fois visible, quoi, bon, par rapport à un avant du marché scolaire et du marché du travail. C'est deux choses qui ont effectivement subi des modifications considérables. Donc ceux qui sont confrontés à ça, ceux qui vivent ça et là-dedans, on peut dire que bon, voilà, bah, ils doivent faire face à une situation nouvelle, voilà, que c'est pas, qui est différente de celle qui précédait. Donc on peut penser que c'est une génération, voilà, qui est confrontée à des difficultés nouvelles, qui a du mal, bon, voilà, à se retrouver, qui est confrontée aussi à un monde de plus en plus individualisé, individualisant, ce serait mieux d'ailleurs de le dire. Donc voilà, ça veut pas... Bon, vous voyez, c'est un peu vague tout ça, mais c'est quand même pas totalement inconsistant. Donc là, je peux entendre ça, quoi.
Si on prend cette définition de, en tant que génération de la crise, on peut dire que cette génération-là ne s'est pas arrêtée, pour le coup. On est toujours dedans.
Une nouvelle génération, on est toujours dedans, oui, je crois, oui. Puis je vois pas de signe que ça va changer. Hein. C'est, en plus, c'est pas... Vous voyez, j'ai l'impression, oui, que cette situation... de plus en plus difficile, tendue, individualisante, etc. Elle se pérennise, elle s'approfondit. Voilà, tout ce qui faisait du collectif, on le détruit méthodiquement. Ça ne veut pas dire que rien ne change, mais ça change lentement.
Est-ce que cette utilisation répétée et fréquente du concept de génération, elle ne sert pas aussi quelque part à pallier l'absence d'expérience collective ? On en parlait tout à l'heure sur la génération de 14, par exemple, qui pour le coup est très concrètement une expérience collective. Ces expériences collectives, elles ont tendance à diminuer au fur et à mesure que le temps avance, on a de moins en moins d'expériences collectives qui soient palpables à l'échelle d'une société ou d'une classe sociale. Ouais. Est-ce que justement l'usage de ce concept de génération ne vient pas remplacer quelque part ou se substituer à cette expérience ?
Oui, je pense qu'effectivement on peut dire ça, on peut tenter, vous voyez, de s'inventer quelque chose de commun par rapport à un vide ou à l'impression que justement on est dans la reproduction, voilà, méthodique, il n'y a rien de change, tout est toujours pareil. Donc on peut tenter effectivement de rechercher qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir de singulier et de nouveau qui permettrait de dire nous ne faisons que marcher dans les pas de ceux qui nous précèdent. Voilà. Alors oui, je pense qu'effectivement ça peut être un des ressorts. Qui invite à chercher quelque chose, quoi. Bon, trouver quelque chose de commun, bon, il faut d'abord qu'il y ait du commun, vous voyez, donc il faut trouver, mais vous voyez, ça se mord la queue, c'est-à-dire faire du commun, il faut avoir quelque chose en commun. Dans une société de plus en plus individualisante, vous voyez, qui tend à individualiser les gens de mille façons, on peut penser que, vous voyez, rechercher du commun, effectivement, ça peut être l'indicateur d'un manque, hein, si vous voulez. Bon, le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, ouais, c'est très exemplaire de ça, je crois. Ça me semble très intéressant aussi sous ce rapport, par rapport aux classes populaires, si vous voulez, qui ont été, je sais pas comment dire, symbolisées et organisées par le PCCGT. On parlait des, vous voyez, de la prière pendant longtemps, quoi. Bon, tout ça s'est effondré, patatras, bon, donc tout est à refaire, quoi, vous voyez. Et d'une certaine façon, on peut dire que les Gilets jaunes réinventent collectivement ce quelque chose, vous voyez, de collectif, ce qui ferait l'identité d'une classe, les classes populaires, quoi, voilà, pour faire vite, qui ne sont pas exactement les mêmes contours que la classe ouvrière d'autrefois, mais les classes populaires d'aujourd'hui, voilà, essayent de se réinventer. Je trouve que de ce point de vue-là, ce truc des Gilets jaunes est très intéressant, parce qu'on y voit justement, vous voyez, cette espèce, on peut analyser ça, je crois, hein, comme une fabrication d'un collectif.
Un point par ailleurs que nous n'avons pas abordé, c'est celle de l'expérience collective culturelle, le fait pour toute une tranche d'âge de partager des films, des musiques, des pratiques qui lui sont propres. Ça aussi, ça peut permettre de percevoir nos sociétés par génération, même si là encore, il faudrait parvenir à penser ces traits communs dans leur dimension politique, si tant est qu'elle existe. Merci à Gérard Mauger pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.